sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est l'histoire d'une New-Yorkaise qui a quitté son loft de Manhattan pour un job à Paris. Alors dit comme ça, l'histoire de René Kaplan ressemble à une romance, un scénar de série B pour longue après-midi pluvieuse. Dans la vraie vie de René Kaplan, rédactrice en chef à France 24, d'ailleurs quelque chose me dit que nous partagerons peut-être le même open space bientôt, la France a toujours fait partie des bagages familiaux. Voilà pourquoi Miss Kaplan croque façon chronique d'une New-Yorkaise à Paris, la société française qui pense, aime, drague, même passé la quarantaine, travaille, mais pas trop, et qui a des chutes de tension, ça beaucoup trop. Bref, l'amie américaine parue aux éditions du Toucan est une déclaration d'amour bien sentie. Hi, René Kaplan.
Bonjour.
Vous me la jouez bonjour.
Oui, j'aurais pu dire hello.
Ouais, mais je vous ai dit hi.
Qui est super américain d'ailleurs.
Ah oui.
Même les British, ils n'aiment pas hi.
C'est vrai.
It's why Americans say hi.
Je pense que vous êtes très française, moi je suis déjà très américaine.
Ouais,
apparemment
voilà.
Déjà. En tout cas, vous êtes d'autant plus à l'aise en livrant ce regard sur nos petits travers de français que vous vous déclarez être une fausse américaine. C'est quoi une fausse américaine?
Alors, c'est ça l'ironie du sort, c'est que j'ai grandi en me sentant fausse américaine parce que j'avais vécu en France enfant, j'avais fait les écoles publiques de Paris, j'avais fait des petites classes en France. Et donc, aux États-Unis, rapatriée donc souvent pour après faire les écoles là-bas, j'étais pas une vraie américaine, j'avais jamais été à Disney World, petite, je parlais un peu bizarrement, et surtout, je me sentais pas américaine. Et en fait, c'est en rapatriant en France ou en venant en France en tant qu'adulte et en intégrant la société française avec un boulot, une carte verte, tout ça. En fait, je me suis jamais sentie plus américaine tout à coup. Mais le côté fausse américaine aux États-Unis et fausse française en France, c'est une sorte de divergence ou duplicité presque, mm-hmm. qui a toujours défini mon identité, ou manque d'eux peut-être.
Oui, parce que ça ne fait pas de vous tout ça une vraie française. Vous avez d'ailleurs trouvé la France très exotique, la France des 35 heures par exemple.
Ah, la France des 35 heures qui était donc tellement... c'est une sorte, une telle stéréotype de la France, surtout par les Américains qui se flattent d'être des bosseurs jusqu'à mourir. Alors découvrir que, bon, moi je bosse pas tout à fait 35 heures et mon entourage non plus, mais de par ce fait, il y a quand même des RTT, des récup, il y a tout un vocabulaire de repos, mmh. en fait, que je connaissais pas. C'est très bien grandir en France, c'est très bien faire des petites classes, d'être ado à Paris, mais être donc adulte, salarié dans une entreprise où il y a toute cette culture de tout ce savoir-faire, ce management de travail et surtout de non-travail qu'on découvre en fait que je suis pas si bête comme démarche, comme style de vie.
Vous êtes en voie de francisation.
Ah, je le sens bien. Faut pas le dire.
Alors à la question, est-ce que vous vous sentez double, René Kaplan? Est-ce que la réponse aussi, elle est double?
Tout à fait. Je pense que ce que j'ai peut-être ressenti grandissant, ado, plus jeune, comme une sorte de duplicité ou même contradiction, maintenant, effectivement, je le ressens comme double. Et alors, ça m'amuse énormément d'être ni entièrement une chose, ni totalement l'autre, mais justement, un petit accompagnement des deux. Ça bafoue, ça étonne, et surtout, ça me permet de peut-être de dire, penser les choses que les autres ne se permettent pas.
Alors, dans ce portrait sur la double culture, qui est aussi un portrait musical, vous avez choisi de nous faire écouter en premier lieu une certaine Yaz, qui, j'en suis sûre, a provoqué des nuits blanches dans les années 80 avec son groupe Yazoo, hein, du temps de ma folle jeunesse, on l'appelait Yazoo. Elle vous a empêché de dormir aussi?
Absolument, c'est la chanson sur l'album qui a totalement bercé mon adolescence. Et c'est très drôle parce que c'est une adolescence passée dans le fin fond d'une Amérique assez rurale. Et pourtant, nous aussi, on se flattait d'être, pop.
Midnight, Yaz, dans le programme en sol majeur de René Kaplan.
Midnight. It's raining outside, it must be soaking wet. Everyone is sleeping tight. God knows I tried my best, but darling, you know it looks bad. Just lost the best thing that I ever had. Well, still I don't know why I did it wrong. It's too late now, he's gone to say. Thought of that. Oh,
Yaz, alias Lucienne Moyet, ancienne majeure sur RFI, est dans le programme de René Caplan, une fausse américaine qui pose sur Paris un regard new-yorkais.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Alors, on peut peut-être commencer bibliquement, j'ai du mal ce matin avec les mots, par le début de votre histoire et l'histoire de vos parents, ou de la rencontre de vos parents, qui est un morceau de bravoure romantique.
Absolument, qui d'ailleurs va très très bien avec cette chanson qui a tout des grands sentiments et de la rupture. Donc, c'est un mariage qui s'est fini, mais qui a très bien commencé.
Ah, c'est fini.
Ah, c'est fini, mais bon,
pas
après.
Pas de happy end.
Il n'y a pas de happy end, mais ce qui rend l'histoire encore plus sympa, improbable, parce qu'elle se raconte plus à la légère. Donc, c'était deux étudiants américains. Mon père, un juif brooklynois, et ma mère, pas encore convertie, donc une baptiste américaine du Sud. Mais tous les deux boursiers de la Fulbright, donc à l'époque, c'était un peu la grande bourse américaine qui envoyait ses jeunes, sa jeunesse à l'étranger. Et à l'époque, en 63, on prenait le bateau. Il n'y avait pas encore l'avion. La Fulbright envoyait tous les Américains en Europe sur le Queen Mary. Et donc, mes parents se rencontrent sur le bateau. 7 jours plus tard, de ce que je puis comprendre.
Hein, attention, qu'est-ce que vous allez nous annoncer?
Voilà,
là,
ils sont ensemble quand ils débarquent au Havre. Ma mère est censée donc faire son parcours, elle, à Aix, en Provence. Mon père à Poitiers. Elle a trouvé peut-être une excuse, peut-être une vraie raison, hein, j'en sais rien, pour dire bah non, le prof Aix, ça marche pas, on collabore mal. J'ai plutôt me faire transférer à Poitiers, où elle rejoint mon père en septembre. Et en janvier, à la mairie de Poitiers, avec 2 témoins, ils sont mariés.
Waouh! Ouais. Coup de foudre, ça s'appelle. Hein.
Coup de foudre, particulièrement improbable parce que petit-fils d'un rabbin, fille d'un frère de pasteur, ça se faisait pas à l'époque.
Et puis ça respecte pas vraiment le dating, on y reviendra tout à l'heure, le timing dans l'amour à l'américaine. Alors d'un côté, donc une maman devenue protestante, ensuite Jane, c'est son prénom, tout et puis de l'autre Stephen, papa juif, fils de rabbin, vous l'avez dit. Est-ce que vous, René Caplan, vous avez été élevé dans la religion ?
Alors j'étais dans la culture juive. Et c'est d'ailleurs une particularité de la communauté juive américaine, c'est-à-dire on a une communauté qui s'appelle Reform, qui n'existe pas tellement en Europe pour plein de raisons, surtout il n'y a pas beaucoup de juifs maintenant en Europe. Et c'est une judaïté qui n'est pas religieuse, qui est surtout avant tout culturelle. Donc c'était un accord d'ailleurs entre mes parents, qui est une culture, donc qui était juive.
Ça correspond presque au cliché qu'on pourrait se faire, nous, du juif new-yorkais classique et cliché. Quand on a tété au lait des Woody Allen, on a un cocktail en tête, c'est-à-dire psychanalyse. Analyse, poids familial, cérébralité, avec à l'arrivée une belle névrose.
Parfaitement exact. Pour la petite image un peu troublante, mais vraie. Ouais.
Alors, vous n'êtes peut-être pas une vraie névrosée, une grande névrosée, mais vous avez quand même été remuée par le destin de vos grands-parents paternels.
Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment le parcours des Juifs d'une Pologne. Même avant la guerre, assez hostile à la population juive. Donc j'ai un arrière-grand-père qui avait été rabbin en Pologne, qui est parti entre les deux guerres pour les États-Unis, où comme des centaines de juifs, il a été d'abord tailleur, ensuite commerçant.
À l'époque, il vivait dans ce qu'on appelle un shtetl.
À l'époque, donc, quand il était en Pologne, il vivait dans un shtetl, c'est-à-dire ces communautés un peu ghettoisées des juifs pauvres. Mm-hmm. Et à New York, il a rejoint une autre ghetto juive à Brooklyn. Et son tout premier job, après donc le job de tailleur, qui était vraiment l'entrée basique des juifs, c'était il vendait les bonbons dans le subway, dans le métro. Et il a fini donc un peu plus illustrement avec une petite épicerie sur Bushwick Avenue où mon père est devenu un peu, il me pardonnera de le dire, un peu bouboule, hein, avec tous les bonbons grand-père et toutes les glaces de sa grand-mère.
Bon, alors est-ce que ça veut dire que avec cette descendance, avec cette ascendance, vous avez été élevé dans la mémoire juive ou pas du tout ?
Absolument. C'est-à-dire c'est une mémoire de l'immigration. Et du travail, de la volonté de se refaire, pas de se réinventer proprement, sauf que j'ai découvert relativement tard que ma grand-mère paternelle, que je n'avais jamais connue, malheureusement elle est décédée avant ma naissance, elle était née en Pologne, elle est venue aux États-Unis quand elle avait 7-8 ans. Mais elle avait toujours fait croire à ses propres enfants, dont mon père, qu'elle avait été née aux États-Unis. Il vit chez elle et chez cette génération-là.
Donc elle a caché ses origines juives.
Totalement. Pas ses origines juives, du tout. Ses origines polonaises, ses origines européennes. La judaïté était très assumée, très importante, parce que c'était des communautés, pareil, assez ghettoisées juives. Mais elle avait une telle volonté d'assimilation dans le nouveau monde, le nouveau pays, dans le America, into the States, que faire savoir à ses petits-enfants qu'en fait, ce petit fond d'accent, c'était pas un accent juif new-yorkais, c'est un petit accent polonais qui lui restait de sa jeunesse. Et ce n'est qu'après sa mort qu'ils ont découvert qu'en fait, elle avait 7-8 ans.
Révélation importante pour vous ?
Je pense révélation importante pour mon père, pas parce qu'elle était donc née polonaise et devenue américaine, mais parce qu'elle avait caché, parce qu'elle tenait tellement à qu'elle et ses enfants soient américaines.
Petite, est-ce que vous rêviez d'être Cendrillon ?
Oui, petite, est-ce que vous rêviez d'être Cendrillon ? Vous me regardez avec des grands yeux. La question, c'est qu'est-ce qu'il avait comme rêve, finalement, votre papa, qui doit être bien déçu de vous savoir journaliste aujourd'hui ?
Ah oui, non, mais grande déception. J'aurais au moins pu être avocate ou si c'était pas chirurgien.
Un minimum.
Donc voilà, donc ayant échoué à la chimie, n'ayant pas fait le bac S et vraiment n'ayant pas voulu devenir donc chirurgien, une grande neurologue, j'ai quand même fait du droit. Hein. Il y avait quand même étant fille de papa juif, on n'y échappe pas. Mais j'ai quand même échappé au barreau. Et je ne suis pas devenue avocate. Mais donc là-dedans, il n'y avait pas vraiment la place de rêver dans
ce... Oui, c'est ça. Interdiction d'avoir son propre rêve, alors, dans la famille.
Oh, interdiction d'être farfelue, hein, je crois. Et puis, il faut dire que petite, j'y croyais, moi aussi. Ah oui, papa, c'est une super idée. Ah ouais, je vais devenir grande chirurgienne. Avant de m'être confrontée, donc, aux sciences.
Alors, juste pour voir, qu'est-ce qu'il faisait, votre papa, lui-même ?
Il est prof. Il est historien, justement, de la France. Voilà, donc toute la passion, tout le lien à la France, c'est en fait un lien passé par mes parents, qui sont tous les deux des professeurs, des chercheurs de la France.
Et il a quoi comme spécialité
Il est 18e. Ouais. À la base, et une passion donc pour ce qui est le travail et la Révolution française. Sa grande théorie, la Révolution française, c'est un complot de famine autour du pain. C'est-à-dire, pour lui, la cause de la Révolution, c'était une privation, une manque de grains et de pain. Et donc, au fil des années, il est devenu spécialiste du pain français.
Donc, vous avez vraiment été élevé dans nos fondamentaux, René Kaplan. Vous étiez un peu prédestiné.
Pour utiliser une parole un peu française que j'adore, grave.
Une maman qui faisait quoi, elle ?
Prof de français, et de littérature française, voilà. On n'y échappait pas. Il y avait, voilà, je pourrais plus m'appeler Jenny ou Amy, mais quand même, je devenais française. Et qui est aussi passionnée par le 18e.
Alors, est-ce que ça veut dire que même dans votre période américaine, vous avez vraiment baigné toujours dans la culture française ?
Toujours. C'est-à-dire que l'aller-retour soit vraiment physique, c'est-à-dire où j'étais élevée en vivant un an en France, 2 ans aux États-Unis, un an en France, 3 ans là-bas. Qu'un aller-retour plus psychique, mental, culturel à la maison. D'ailleurs, c'était informel, mais plus ou moins toujours. Je parlais français à mon père et anglais à ma mère. Et encore aujourd'hui, l'anglais avec mon père, c'est le langage dont on s'engueule.
Ah bon ?
Ah ouais, c'est le langage sérieux, le langage un peu sympa, on s'amuse, on se passe, c'est le français.
Une question comme ça pour la route, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Est-ce que Cendrillon a finalement trouvé le prince charmant ? Et la vraie question, c'est est-ce qu'il a la carte American Express ou la carte vitale ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai la carte American Express et lui, la carte vitale, c'est clair. Ouais.
On va y revenir, va falloir creuser le sujet. Il y a un peu de rock qui nous attend sur le pick-up d'un sol majeur avec un groupe que vous adorez, qu'un groupe français de heavy metal. Vous vous moquez donc. C'est le groupe Phoenix.
Oui, pas tout à fait heavy metal, mais c'est-à-dire c'est un groupe qui d'ailleurs cartonne plus aux États-Unis, un groupe français qui cartonne plus aux USA qu'en France.
Ça, il faut le souligner, hein, c'est quand même une rareté. Qu'est-ce qui vous botte dans ce groupe-là ?
Il y a une sorte de dynamisme avec le côté un peu sentimental, farfelu justement. Il y a un flou, il y a un petit flou joyeux que je trouve très français, même si je chante en anglais.
Too Young, Phoenix, dans le programme en sol majeur de René Kaplan sur RFI. We'll be right back. oui. Chante pas franchement heavy metal. J'ai presque mangé mon stylo à cause de vous, René Kaplan, notre invitée, journaliste new-yorkaise à Paris, qui revient en seconde partie d'émission, nous parler de la limonade en poudre, very exciting, et du Velvet Underground, la classe, tout ça juste après le rappel des titres.